Oh, Henry, mémoire d'un chien jaune. Je ne pense pas que ça puisse beaucoup vous emboucher à un coin de vous trouver face à face avec la production littéraire d'un animal. Monsieur Kipling et ses multiples successeurs ont démontré substantiellement que les bêtes peuvent s'exprimer en littérature d'une façon rémunératrice, et aucun magazine ne paraît aujourd'hui sans contenir au moins une histoire d'animaux, à part peut-être les vieux mensuels traditionalistes qui en sont encore à publier des biographies de Lincoln et des articles sur le progrès humain par la civilisation industrielle. Mais ne vous attendez pas à trouver ici l'espèce de langage qu'emploient dans les livres de la jungle nos amis Pitot, le Python, Ourso, l'ours et Boko, le tigre. Il ne faut pas demander des acrobaties oratoires, grammaticales et épisodiques à un simple chien jaune qui a passé presque toute son existence dans un appartement bon marché de New York à dormir dans un coin sur une vieille robe de satin. Celle sur laquelle le garçon lui renversa le civet de homard le soir du banquet des femmes de capitaine au long cours. Donc, je vins au monde un certain jour. Couleur jaune. Date, lieu, pédigré et poids inconnus. La première chose que je me rappelle, c'est qu'une vieille dame mit dans un panier et m'emporta au numéro 23 de Broadway, où elle essaya de me vendre à une dame moins âgée, mais beaucoup plus grosse. La vieille voulait à toute force me faire passer pour un authentique fox terrier, poméranien, caniche, ténéry, flévrier, pékinois de race. La grosse dame poursuivit pendant un bon moment une pièce de 5 $ qui s'enfuyait éperdument au milieu de l'entrepôt général constitué par son sac à main et capitula. À partir de ce moment, je devins un trésor, le petit Toto Kikizozor à sa maman. Dites, gentil lecteur, qu'est-ce que vous penseriez si une femme de 100 kilos, qui exhale une odeur mitigée de poulet d'Espagne et de camembert, vous empoignait tout à coup et fourrait son nez dans les recoins les plus sacrés de votre anatomie, en gargouillant sans arrêt, avec le même ton de voix que cette star de la Gross and Blackwell Picture Corporation. Oh! Kiksek, sel, coco, mimi, toutoub, zizim, tia, tia, oudoudou, nounou, nounou, sa petite mère. Je passais bientôt de l'état de chiot au pédigré à celui de petit chien jaune anonyme. Quelque chose qui devait ressembler au produit d'une ourse incolore fécondé par un canari. Même ma maîtresse ne vacilla jamais d'un centigramme. Elle ne cessa pas un seul instant de proclamer sa foi en mon aristocratie, à tel point que c'est tout juste si elle n'affirmait pas que les deux toutous embarqués sur l'arche de Noé étaient de simples cousins de mes aïeux. Il fallut deux policemen pour l'empêcher de me présenter à l'exposition canine de Madison Square Garden. Maintenant, il faut que je vous parle de l'appartement. La maison d'abord ressemblait à toutes les maisons de New York. Le hall d'entrée était pavé en marbre de Paros et tout le reste en briques d'ourdi de deuxième choix. Notre appartement se trouvait au troisième étage, j'allais dire à la troisième échelle. Ma maîtresse l'avait loué non meublé. C'est elle qui le gardit de l'assortiment régulier. Salon ancien, style exposition universelle, salle à manger Roosevelt, chambre à coucher, hôtel des ventes, lithographie en 6 couleurs représentant des geishas debout et accroupies dans une maison de thé de Harlem, plantes vertes en carton et Marie. Par Sirius, voilà un bipède qui me faisait de la peine. C'était un petit homme avec des cheveux pâles et une barbiche presque comme la mienne. Un vrai martyr. Il tapait Blandine et tous les chrétiens du cirque de 5-20 longueurs en matière de supplice. C'est lui qui lavait la vaisselle, pendant que ma maîtresse lui énumérait toutes les frusques éraillées comme l'hôte qui m'était asséché dans la cour de la dame du second, celle qui sortait toujours avec un manteau de petit gris. Et tous les soirs, tandis qu'elle préparait le dîner, elle l'envoyait me promener au bout d'une corde. Si les hommes savaient comment les femmes passent leur temps quand elles sont seules, ils ne se marieraient jamais. 3 minutes d'ablution, 3 heures d'usinage chimique des parties apparentes de l'anatomie, dont 1 heure pour les ongles et 1/2 heure pour le nez, 25 minutes de bavardage avec la concierge quand elle monte le courrier, 50 minutes à regarder par une fente des persiennes ce qui se passe dans l'appartement d'en face, voilà pour le principal. Le reste du temps est consacré à croquer des cornichons et des pistaches, à boire d'une ginger beer, à écouter Ricitonio chanter « J'aime que tu m'aimes » à la radio, à relire un paquet de vieilles lettres et à téléphoner dans 14 magasins pour demander si on ne pourrait pas lui livrer à condition 6 boutons en terre vert tango de forme conique avec un trou dans le milieu et 4 petites boules en cuivre sur les côtés pour assortir avec un corsage de crêpes marocain jaune à manches brûlées et à 2 découpures sur le vent, vous savez. Et 20 minutes avant que le mâle rentre à la maison, elle fourre tout ce qui traîne dans un placard, sort son sac à ouvrage et s'installe dans la salle à manger pour une séance de couture bluff de 10 minutes. Je menais une vie de chien dans cet appartement. Je passais presque toute la journée dans mon coin à regarder cette grosse femme exterminer les heures de son existence. Par moments, je m'endormais et je rêvais avec des petits cris d'extase que j'étais en train de courir après les chats dans la cour et que j'aboyais après la vieille dame qui portait des mitaines, ce qui est la fonction naturelle d'un chien. Alors mon tyran se jetait sur moi en expectorant son charabia de femelle gratteuse, et elle m'embrassait sur le nez. Et qu'est-ce que je pouvais faire? Un chien ne peut pas mâcher les tubercules de cette dimension. Oui, vraiment, le mari commençait à me faire de la peine, foi le chien jaune. On se ressemblait tellement tous les deux que les gens le remarquaient quand nous sortions ensemble. Aussi dûmes-nous éviter les avenues fréquentées par les gens bien pour nous cantonner dans les humbles voies, sales et défoncées où habitent les pauvres. Un soir, quand on se promenait ainsi, et que je m'efforçais d'avoir l'air d'un Saint-Bernard primé, et que mon triste patron essayait de prendre une mine terrible, comme s'il était prêt à tuer la première personne qu'il entendrait jouer la marche nuptiale de Mendelssohn, je levais les yeux sur lui et lui dis à ma manière « Mais pourquoi fais-tu cette tête-là, vieux homard gratiné ? Ne t'embrasse pas, toi. T'es pas obligé de t'asseoir sur ses genoux et de prêter l'oreille à des élucubrations qui sont à un vocabulaire régulier ce qu'un scénario cinématographique est au maxime d'épithète. Tu devrais te féliciter que t'es pas un chien. Secoue-toi, Bénédicte, et chasse le cafard. » La victrine matrimoniale abaissa sur moi ses regards empreints d'une intelligence presque canine. Eh, toutou, dit-il, bon toutou, ma parole, on dirait qu'il a envie de causer avec moi. Qu'est-ce qu'il y a, toutou? Des chats? Des chats, mais causer avec lui. Mais naturellement, il ne pouvait pas comprendre. Les humains n'ont pas reçu le don de la parole animale. Le seul terrain sur lequel hommes et chiens peuvent entrer en communication verbale est celui de la littérature. Sur le même palier que nous logeait une dame, propriétaire d'un terrier noir et fauve, que son mari sortait au bout d'une corde, lui aussi, tous les soirs. Mais je fus frappé de constater que l'homme rentrait toujours à la maison en sifflant joyeusement. Un jour, je me frottais le nez dans le hall avec le terrier et tâchais d'extraire de lui une sorte d'élucidation. Eh, dis donc, Sotério, fis-je, c'est que c'était pas dans la nature d'un homme de faire la bonne d'enfant d'un toutou en public. J'ai jamais encore rencontré un seul qui n'eût pas l'air de vouloir boulotter tous ceux qu'il regardait, lui et sa laisse et le bébé à quatre pattes. Mais ton patron rentre tous les soirs aussi fier, aussi radieux qu'un prestidigitateur amateur qui vient de réussir le truc de l'œuf magique. Comment fait-il? Tu me feras pas croire qu'il aime ça. Lui, dit le terrier, il a tout simplement recours au remède naturel de la nature. Il se saoule la gueule. Quand on vient de sortir, il a l'air aussi confus que le petit garçon qui demande combien il faut de pièces de 5 sous pour acheter une bicyclette. Mais dès que nous en sommes au 8e bistrot, il sait même plus ce qu'il y a au bout de la laisse, c'est un chien ou une langouste. J'ai perdu 5 cm de ma queue dans toutes ces allées et venues à travers les portes de café. Et la réflexion astucieuse de ce terrier me fit réfléchir. Un soir, à 6 heures, ma maîtresse donna l'ordre à son esclave, comme d'habitude, d'aller faire prendre l'air à Namur. Ah oui, je voulais cacher jusqu'à maintenant, mais c'est comme ça qu'elle m'appelait. Oh, le terrier lui était intitulé Quequeur. Je considère que ce dernier synonyme bat tous les regards de la rigolade et de la dégoûtation. Néanmoins, je reconnais que Namur est quelque chose comme une casserole alphabétique attachée à la queue de la dignité canine. Comme nous arrivions devant un bistrot d'aspect alléchant et raffiné, dans une petite rue paisible et sûre, je me mis à tirer sur la longe de mon gardien et me précipitai cou tendu vers la porte en gémissant pathétiquement comme le chien qui vient communiquer à sa famille dans les divers contes littéraires que la petite Alice est tombée dans la fosse à purin en voulant attraper un papillon sur la queue d'une vache. Ma parole, fait le vieux avec un rictus sympathique. Le diable m'emporte si ce damné fils de soda citron ne cherche pas à m'emmener boire un coup. Voyons, combien il y a de temps que je n'ai pas mis les pieds dans un. Oh si je, après tout. Je sentis qu'il était fait. Il s'assit et commanda un whisky chaud. Puis deux. Il faisait froid ce jour-là. Pendant 1 heure, il n'arrêta pas de faire manœuvrer les bouteilles de Johnny Horse et de Windwalker. J'étais assis près de lui et c'est moi qui appelais le garçon en frappant sur le parquet avec ma queue. Et je me tapais en même temps un de ces goûters gratuits, dose de jambon et de reste de hachis universel, tel que jamais n'en avalèrent les 12 membres de la famille du conseiller municipal au buffet du bal de l'hôtel de ville. Quand il eut achevé de faire le plein, le vieux détacha ma laisse du pied de la table et m'entraîna dehors en me faisant valser comme si j'étais le toutou en peluche de l'acrobate comique. Une fois sur le trottoir, il m'enlève le collier et le jette dans la rue. Pauvre toutou, où fait-il? Bon toutou, toutou, elle t'embrasse, à plus, va. C'est dégoûtant. Bravo, toutou, tout va-t'en. Allez, va-t'en faire, écrabouillé par l'autobus, et sois heureux, heureux. Mais je veux pas te quitter. Moi, alors je saute autour du vieux et me frotte contre ses jambes Heureux comme une mouche sur un crâne chauve. Sacré vieux fox terrier pouilleux, m'écriai-je. Vieil épagneul chasseur de mulots. Vieil aboyeur au clair de lune. Tu vois pas que je veux rester avec toi? Tu vois pas que nous sommes les deux frères du petit Pousset, et que la patronne est le vilain ogre qui nous poursuit la bassine à vaisselle d'une main et de l'autre un ruban rose pour m'attacher à la queue? Mais pourquoi ne pas laisser tomber tout ça et devenir copain pour toujours? Peut-être direz-vous qu'il ne comprit pas, possible. En tout cas, il réussit à maîtriser suffisamment le trio Johnny, White et Soda pour être capable de consacrer une minute à la méditation. Toutou, dit-il finalement, oh, nous ne vivons guère qu'une douzaine de vies sur cette terre. Et très peu d'entre nous vivent plus de 300 ans. Et si jamais ma rombière me revoit, tu m'entends? Je ne suis qu'un chien, et pire encore, si tu retournes, toi t'es le dernier des hommes. Et je suis poli. Je parie 1 $ contre 100 fauteuils de balcon à l'opéra que Fille de l'air va gagner le handicap de 10 longueurs. Et zip! Et nous voilà partis, tous les deux, en gambadant, jusqu'à la station de la 23e rue. Et sur 50 chats que je rencontrais en route, il y en a bien 45 qui firent perdre la face à la nation Matou. Quant aux 5 autres, eh bien, ça se voit encore sur ma figure. Une fois dans le train, mon maître dit à un étranger qui était occupé à croquer un petit pain au raisin, « Moi et mon toutou, on s'en va aux montagnes rocheuses. » Mais ce qui me fit le plus de plaisir, c'est quand mon vieux me tira les deux oreilles jusqu'à me faire hurler et me dit « Sacré vieux paillasson jaune à tête de singe et à queue de rat, sais-tu comment je vais t'appeler ?» Je pensais à Namour et poussais un gémissement plaintif. « Bien, je vais t'appeler Bob, dit mon maître. Et le diable mes puces, si je n'aurais pas voulu à ce moment avoir 10 queues à remuer pour manifester mon bonheur. »